chose qui vient spécialement dédicacée à tous ceux qui aiment la Méditerranée et à ceux qui adorent aussi plonger comme nous. Oh, que c'est bon, cousin. Mais qu'elle est bleue, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue. Oh, moi ça me rend joyeux, mais qu'elle est bleue. Mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue comme tes yeux. Oh, moi ça me rend heureux, elle est pleine de poissons, elle est pleine de poissons. Des petits, des gros, des fins, des longs et même des tourons. Certains vivent près du bord et d'autres vivent dans le fond. Certains sont sédentaires et d'autres changent d'horizon. Ils n'ont pas grand chose à faire, ils ne se font pas de mourons. Ils ont leurs identités, moulons de style et de façon. Les petits mangent les verres et les gros les dévoreront. Mais la chaîne alimentaire, il faut que nous la respections. Mais qu'elle est bleue, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue. Oh, moi ça me rend joyeux, mais qu'elle est bleue. Mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue.
Voilà, bon, écoute, je vais sauter ce chapitre. Et quand on parlera des fusillés,
bien,
je reviendrai.
Bien, 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 bien. Eh bien, auditrice, auditeur, bonjour. Daniel, en émission, jusqu'à approximativement 14h, 14h50. Et j'ai avec moi des invités qui ont bien voulu, qui ont répondu donc, à l'appel, étant donné que nous sommes au mois de décembre. Et cette émission est plus particulièrement dédiée donc aux anciens, aux combattants de 1914-1918. Voilà, je n'en dis pas plus et je laisse la parole à mes invités par la personne qui est à ma gauche.
Michel Cadouche de La Libre Pensée. Eh bien, nous organisons donc à Septèmes-les-Vallons le samedi 9 à 9h30, une réunion pour la réhabilitation des fusillés pour l'exemple de la guerre 14-18. Donc, son organisateur, l'Association républicaine des anciens combattants, le mouvement de la paix et la libre pensée. Je vais céder la parole à l'Association républicaine des anciens combattants, la RAC, pour se présenter.
Oui, merci Michel. Donc moi c'est Patrick Saint-Aunois, je suis le président départemental de l'Association républicaine des anciens combattants et des victimes de guerre. Mais nous sommes aussi des combattants pour l'amitié, pour la solidarité, la mémoire, l'antifascisme et la paix. Notre association fut créée officiellement le 2 novembre 1917, en pleine Première Guerre mondiale. Et notre association s'est créée des objectifs. Le premier objectif, c'était bien sûr d'obtenir et ensuite de défendre des droits à réparation pour les anciens combattants et les victimes de guerre. Alors les victimes de guerre, bien sûr, ce sont les veuves, les pupilles de la nation, etc. Mais c'était aussi pour rassembler les hommes et les femmes dans l'action contre la guerre, pour la paix et la solidarité entre les peuples. Également pour promouvoir les idéaux républicains de liberté, d'égalité, de fraternité et lutter contre le colonialisme et le fascisme. Et le dernier objectif, c'était de cultiver la mémoire de l'histoire dans un esprit de vérité. L'idée de créer cette grande association germait depuis le début de la guerre, dans la tête de nombreux poilus de 1914-1918. Mais il faut le dire, c'est Georges Bruyère, ouvrier métallurgiste, qui dans les tranchées rencontre deux écrivains poètes et intellectuels, Paul Vaillant-Couturier et Raymond Lefebvre. Tous trois étaient membres de la SFIO, la section française de l'Internationale ouvrière, et c'est de cette rencontre, on peut le dire, dans un entracte du meurtre qu'est née la RAC. L'enfantement a donc eu lieu en réaction à cette guerre. Le combat pour l'obtention du droit à réparation était donc là lancé. Bruyère disait « Il faut faire quelque chose de neuf. Le parti s'est déshonoré. Le parti nous a trahis en signant l'Union sacrée alors que la paix était encore possible. » Ils décidèrent donc d'aller rencontrer Henri Barbusse, qui avait obtenu le prix Goncourt en 1916 pour son livre « Le feu, journal d'une escouade », qui a été écrit dans les tranchées même de cette immonde boucherie. Mais nous pouvons ajouter aussi que la première victime de ce conflit mondial fut Jean Jaurès. Jean Jaurès qui a payé de sa vie son combat pour la paix. Barbus, pardon, qui de par ses écrits dénonçait les causes de la guerre. C'est lui, avec sa clairvoyance, qui dénonça cette guerre capitaliste pour un repartage du monde, de ses richesses, de l'exploitation des peuples. Tous les actes de Barbus étaient un enseignement. Cette guerre mondiale, dont le bilan se chiffre à 10 millions de morts, à 20 millions de blessés, pour notre pays c'est 1 400 000 morts, 3 millions de blessés, 740 000 invalides, 800 000 veuves et près de 1 million d'orphelins. Barbus avec l'Arak, c'est aussi son éternel combat contre le fascisme. C'est la création d'Amsterdam Pleyel avec Romain Rolland qui devint le premier comité mondial contre la guerre et contre le fascisme. Toute la vie de l'Arak, c'est les combats contre les guerres, contre le colonialisme, contre le fascisme et pour la paix. D'ailleurs, je tiens à vous dire que nous venons de tenir nos deuxièmes états généraux de la paix à Créteil, c'était le 21 octobre, avec de nombreuses associations d'élus de toute la France, dénonçant la course au surarmement dont notre pays se place en troisième position de vente d'armes. Nous demandons donc le respect du droit international et de la Charte des Nations Unies, le retrait de la France de l'OTAN qui n'est que le bras armé des États-Unis. Alors, pour terminer, notre association vient de fêter ses 102 ans. Notre histoire, cette histoire singulière mais aussi tellement particulière, mais vous savez, l'histoire de l'Arak, c'est aussi une histoire sans prétention. Ce n'est que le résumé de l'activité d'une association qui a toujours fait preuve de courage, de dévouement. Alors nous avons bien sûr énormément mené de combats, mais nous savons que nous en avons encore beaucoup à mener. Et je tiens à dire que vous pouvez compter sur nous pour ne pas oublier de les mener.
Merci, merci pour ces paroles. Mon voisin de droite,
Oui, moi je me présente, je suis Michel Garin. Je suis le président du groupe Jean Jaurès de la Libre Pensée de Vitrolles. Et en dehors de cela, je suis chargé dans la fédération départementale d'un problème qui est consécutif à la guerre de 14, c'est-à-dire ce qu'on appelle les fusillés pour l'exemple. Alors avant de parler des fusillés pour l'exemple, je pense qu'il est bon de dire, vous l'avez vu, on parle de l'Arak, on peut se demander, mais la libre pensée là-dedans, qu'est-ce qu'elle fait? Alors il faut savoir que la libre pensée est une association qui a plus de 160 ans. Et elle est connue pour avoir été à l'origine de la loi de séparation des églises et de l'État. Un facteur, aujourd'hui, vous connaissez très bien, puisque c'est la loi à l'origine de la laïcité. Donc, je ne vous parlerai pas de laïcité aujourd'hui. Mais l'un de ces combats de la libre pensée, il faut savoir qu'elle est contre la guerre. Et quand je dis contre la guerre, elle est contre toutes les guerres d'hier et d'aujourd'hui. Hein, il faut le savoir. Il y a des guerres. Les Français sont engagés dans des guerres. Et la libre pensée n'est pas pour cela. Alors pourquoi, tout à l'heure, on a parlé des victimes de la guerre de 14, et on peut parler parmi ces victimes de ceux que l'on a appelés les fusillés pour l'exemple. C'est-à-dire que ceux que nous, la libre pensée, nous appelons les fusillés par la France. Voilà. Donc, depuis, bien entendu, le camarade l'a dit, l'Arak est, depuis 1917, se bat pour la défense des fusillés, pour l'exemple. La LDH également, il faut le souligner quand même, puisque c'est la LDH qui a entamé les premiers combats pour la réhabilitation des fusillés, pour l'exemple. Il suffit de se rappeler du film Blanche Maupa de Alain Moreau, hein, que beaucoup de vous connaissent, pour savoir que les premières réhabilitations ont été effectuées par la LDH. Alors pourquoi la libre pensée? La libre pensée, il faut le savoir que depuis les années 90, début des années 90, ce problème n'étant pas résolu, puisque un peu oublié, je dirais, hein, ce problème a été repris et remis à l'ordre du jour par la libre pensée. Et depuis, nous menons ce combat à l'occasion des 11 novembre, hein, puisque c'est l'anniversaire de 14-18. Et cette année d'ailleurs, je ne vous cache pas que c'est pareil, c'est le centenaire de la fin de la guerre, de la fin officielle de la guerre, hein, puisque c'est suite au traité de Versailles qu'a débuté, je dirais, la Deuxième Guerre mondiale. C'est des trucs qu'il faut rappeler.
Merci Michel. Donc, nous sommes associés aussi avec le mouvement de la paix, hein, qui existe depuis 1948, dont tout le monde connaît le combat pour le désarmement, en particulier nucléaire, mais aussi contre la production et les transferts d'armement, pour la réduction des budgets militaires. En ce qui concerne de la libre-pensée, bon, personnellement, moi je suis président du groupe Louise Michel de Marseille. Il y a deux groupes de la libre-pensée à Marseille. Hein. La libre-pensée combat pour la liberté absolue de conscience. C'est-à-dire qu'elle s'oppose à tous ceux qui veulent imposer un dogme. Et dans le cas qui nous occupe, tout ce qu'on veut nous servir sur les questions du patriotisme, de la gloire militaire, moi que j'appelle de la gloriole. Et par rapport à ça, on se rend compte qu'aujourd'hui, pour les 11 novembre, régulièrement, les autorités font hommage aux soldats dits morts pour la France. En réalité, ils sont morts. On peut se poser des fois la question pourquoi ils sont morts. L'ARAC nous rappelait pas mal de choses. Et donc, nous, dans ces circonstances, on veut faire reconnaître qu'il y a un certain nombre de soldats qui, pris dans cette immense tourmente qu'a été la guerre de 14-18. Tout à l'heure, peut-être, je reviendrai sur les conditions dans lesquelles ils étaient, mais c'est des choses absolument abominables. Donc, la libre-pensée a décidé, dans le cadre de son antimilitarisme, de participer au combat qu'a engagé l'ARAC pour la réhabilitation des fusils, pour l'exemple. La guerre, il faut s'imaginer ce que ça pouvait être. Au début, ça a été une guerre de mouvement, hein, tout le monde le sait, mais à Marseille, nous avons eu des combattants qui étaient dans le 15e corps, le corps des Provençaux, qui ont été engagés dès le 22 août en Lorraine. Hein, les troupes avaient pénétré en Lorraine, qui à l'époque était allemande, à Morange, M-O-R-A-N-H-A-N-G-E, pardon. Hein. Vous pouvez consulter sur Internet, sur Wikipédia, la bataille de Morange, hein, et vous allez voir comment ça s'est passé. On a engagé des troupes, un endroit bien connu par l'armée allemande, puisqu'elle pouvait y faire des entraînements. Elle avait même mis des poteaux pour régler le tir des mitrailleuses. On est parti, on a engagé nos troupes dans une nasse, en partant d'en bas vers la crête. Ça a été une boucherie effroyable. Le nombre de morts, il faudrait que je le retrouve.
Oui, et tout ce qu'on n'a pas retrouvé non plus, et tout ce que l'on n'a pas encore retrouvé, qui sont encore sous terre et autres.
Voilà, donc voilà, le nombre de morts se chiffre d'entrée de jeu par milliers. Et ensuite, il y a eu une deuxième bataille un peu plus loin vers à Dieuze, et c'est pareil. Ça a été, et la première bataille, on peut remarquer qu'elle a été perdue aussi à cause d'une initiative du futur maréchal Foch, qui n'a pas obéi à la stratégie qui avait été établie et qui a dégarni un flanc. Ce qui fait que la bataille a été perdue. Et avec ces chiffres effroyables de pertes, les Marseillais se sont rapidement rendus compte, d'ailleurs, de ce que ça a été. Parce qu'il est arrivé, les nouvelles, toutes les familles ont vu arriver des avis de décès, des blessés, etc. À tel point que la guerre fraîche et joyeuse qu'on nous a vantée, on en était loin, puisque on sait... Il y a des rapports de préfectoraux qui l'indiquent, que les familles se sont couchées sur les voies à la gare Saint-Charles pour empêcher les trains de soldats de partir. Hein, c'est, voilà, c'est... Et puis, on ne parle pas des conditions de la population civile dans le pays. Ça serait l'objet, d'ailleurs, d'autres entretiens, parce que c'est tout aussi intéressant. Voilà, donc, ces gens qui sont engagés dans la bataille, et pour le 15e corps en particulier, qu'on accuse de lâcheté. Et rapidement, je crois que c'est un ministre qui a dit, mais qu'on nous trouve les coupables de ceux qui nous ont fait reculer. Donc très rapidement, il y a eu des fusillés, pour l'exemple. Et contrairement à ce qu'on peut imaginer, ce n'est pas au début de la guerre qu'il y a eu le plus de fusillés. Mais ça, on reviendra dessus. Disons, voilà, cette bataille de Morhange, j'ai eu accès à un témoignage d'un combattant. Il explique qu'ils avaient marché, ça faisait 2 jours qu'ils avaient marché. Ça faisait 2 jours qu'ils n'avaient quasiment pas mangé. Et on l'envoie dans ce bourbier, parce que c'était relativement des marais, on les envoie charger avec 40 kilos sur le dos pour monter à l'assaut de mitrailleuses. Je ne sais pas si on peut se représenter ce que c'est.
Oui, en plus de ça, l'intendance ne suivait pas.
Ah, l'intendance a été loin derrière. Hein.
Oui, ça c'est certain.
Hein. Donc, vous imaginez, lourdement chargé, avancer là dans la boue et essayer de monter alors que les mitrailleuses vous déciment, mais c'est impossible. Et pareil, par la suite, quand c'était dans les tranchées. Bon, les tranchées, elles sont d'ailleurs réalisées d'une manière très simple. Quand on est immobilisé, on fait un trou pour s'en tirer, pour s'abriter des armées ennemies. Et petit à petit, ben, comme les soldats sont voisins, les trous se rejoignent. Et ça a fait des tranchées. C'est comme ça que c'est arrivé. Et donc, il y avait la tranchée et puis le talus. Du coup, avec la terre rejetée qu'on mettait devant vers l'ennemi. Hein, et ils étaient là-dedans. Et au bout de quelques semaines, après quelques assauts, il faut imaginer la vie. Il a plu. C'était boueux. Ça sentait pas bon. Hein, il y avait des odeurs de cadavres après les premiers assauts. Il y avait des cadavres qu'on n'avait pas pu aller rechercher. Ça puait. Ça puait les excréments. Voilà, c'est. Et à un moment donné, on dit allez, à l'assaut, à l'assaut, à l'assaut. Alors qu'il y a les mitrailleuses qui se déclenchent en face. Il faut couper les fils de fer barbelés pour avancer. Hein, on monte le talus avec une petite échelle, on avance, et puis il y a les mitrailleuses et les obus qui éclatent à côté. Hein, et imaginez-vous, un obus qui tombe à côté de vous. Projette de la terre, vous êtes enseveli sous la terre. C'est des conditions abominables. Et on comprend qu'un certain nombre, déjà que des fois les ordres ont été donnés de reculer, et puis qu'un certain nombre d'hommes disent on ne peut pas avancer. Et puis il y en a que ça rend fou. Ils partent hallucinés. Hallucinés et on les retrouve. Voilà, c'est le je pense le contexte dans lequel on a vu arriver ces procès sommaires, parce qu'en plus, le gouvernement a donné tout pouvoir à l'armée pour faire des procès, pour faire des conseils de guerre.
Bien, merci pour ce témoignage.
Oui, donc pour la rate, je vais revenir un petit peu. Donc on est dans le chapitre des fusillés. Pour l'exemple, rappeler que Henri Barbus, dans son livre Le Feu, journal d'une escouade, je l'ai dit tout à l'heure, pris Goncourt en 1916, dénonçait déjà dans le chapitre Ergueval les crimes de l'armée. C'est ce qu'on appelle les crimes de l'armée. Les fusillés, pour l'exemple, ces hommes qui étaient soldats malgré eux, qui ont été exécutés, déshonorés et jamais réhabilité, sauf, je pense, 40 l'ont été dans les années 20 et les années 30. Il y eut, par ces tribunaux d'exception, 2500 condamnés à mort, 140 000 jugements, 639 ont été effectivement fusillés. Ces hommes qui, on doit le dire, étaient bien souvent pris au hasard et condamnés par une justice expéditive qui ne leur laissait aucune chance. Condamnés à mort et exécutés dès le lendemain. Ces exécutions devaient exercer un effet dissuasif sur la troupe. Elles devaient servir d'exemple pour ainsi éviter d'autres désobéissances. Ces exécutions se faisaient y compris devant toute la troupe. Ces crimes que Pétain appelait lui-même des cérémonies expiatoires. La réhabilitation des fusillés pour l'exemple est l'un des combats premiers de notre association LARAC. Combat commun, bien sûr, ça a été dit, avec d'autres associations, dont la Libre Pensée, la Ligue des Droits de l'Homme, le Mouvement de la Paix, et d'autres encore, je pense au Parti Humaniste. D'ailleurs, pour l'ARAC, quant aux fusillés pour l'exemple, nous avons, à un de nos derniers congrès nationaux, nous avons voté une résolution. Aujourd'hui, pour nous, ce n'est plus une revendication, c'est une résolution. Nous demandons qu'il y ait donc une réhabilitation collective devant la nation. Que la mention « mort pour la France » soit portée à leur état civil et signalétique militaire, que leur nom soit inscrit sur le monument, les monuments aux morts de leur village et que leurs descendants vivants bénéficient des dispositions de la loi ouvrant droit à réparation. C'est encore aujourd'hui le combat de notre association. Et je vais donc passer la parole à mon camarade. Mais tu as abordé tout à l'heure les soldats du Midi, la légende noire des soldats du Midi. Donc je pourrais, quand je reprendrai la parole tout à l'heure, vous en dire quelques mots.
Oui, je voudrais rajouter que pour les fusillés pour l'exemple, je vais vous donner les chiffres. Là. Hein ? Il y a eu en fusillés 206 d'août à décembre 1914. 206 dès le début de la guerre. 296 en 1915. 136 en 1916. 89 en 1917, alors qu'il y avait eu les mutineries. 14 en 1918. C'est parce que il voulait faire des exemples en disant ça va dresser la troupe. On va les mater, on va leur montrer. Et ils ont vu que ça ne marchait pas, que c'était l'inverse qui se produisait, que ça avait provoqué des sentiments d'indignation dans la troupe et de peur. Et que c'était une fois de plus, je dirais, nos braves généraux s'étaient trompés. C'est le moins qu'on puisse se dire. Et que si aujourd'hui on a des difficultés pour les faire reconnaître, moi je relirais ça assez facilement avec ce qu'on appelle les opérations extérieures actuelles qui font qu'on ne veut pas se fâcher que notre gouvernement, et je pense que Michel Garin reviendra dessus, sur en particulier le comportement de M. Hollande que je trouve particulièrement indigne. Et voilà les chiffres que nous avons. Il y a aussi un film qui a été cité. Ben ça peut vous éclairer aussi. Il y en a eu plusieurs. Hein. Tout le monde connaît Les Sentiers de la Gloire. Il y a eu Un dimanche à la campagne de Patrice Jeunet. Fusillé pour l'exemple de Patrick Cabour, Blanche Maupas, Adieu la vie, adieu l'amour. Un autre, fusillé pour l'exemple de Michel Brunet et Dominique Hennequin. Et assez récemment, Au revoir là-haut. C'est toute une série de films qui sont assez éclairants sur la condition des soldats pendant cette guerre.
Est-ce que ces films sont accessibles au public ?
Ah, pour beaucoup, oui. Oui, un dimanche à la campagne, les sentiers de la gloire, adieu la vie, adieu l'amour. Au revoir là-haut, qui est tout récent. Oui, bien sûr, on le trouve en DVD assez facilement. Bon, Blanche Maupas, c'est plus compliqué peut-être. Voilà.
Oui, merci mon cher Michel de me laisser un peu la parole sur les fusillés pour l'exemple. Bon, je vais revenir là-dessus. C'est-à-dire que les fusillés pour l'exemple, il faut savoir que c'est un sujet qui est revenu, comme je le disais tout à l'heure, hein, depuis à peu près un peu plus de 30 ans maintenant. Et moi, ça fait à peu près pas loin de 20 ans que je travaille sur le problème des fusillés pour l'exemple. Et bien entendu, peut-être plus particulièrement sur les fusillés pour l'exemple des Bouches-du-Rhône. Parce qu'il faut le savoir quand même que, bien entendu, ces fusillés pour l'exemple, hein, comme l'a dit Patrick, hein, j'avais fait éditer une petite brochure d'ailleurs pour les fusillés pour l'exemple, en expliquant ce, qui étaient ces fusillés, comment ils avaient été fusillés. Je commence dans ma brochure par dire qu'ils n'étaient ni lâches ni froussards, ils n'étaient ni déserteurs ni méprisables, ils étaient des hommes debout, des citoyens qui servaient la France et la République. C'est comme ça qu'ils sont partis, hein, il faut le savoir. Donc, Patrick en a beaucoup parlé, d'ailleurs, et c'est très bien, et c'est tout à fait la réalité, hein, je ne vais pas revenir là-dessus. Bon, moi, je vais vous parler plus spécialement, en définitive, de la campagne que l'on mène, parce qu'il ne faut, faut pas oublier qu'aujourd'hui, on est là, pourquoi ? Parce qu'en grande partie, il va y avoir des actions à la faveur du 11 novembre, et que beaucoup de ces actions sont menées dans le cadre de la réhabilitation des fusillés, pour l'exemple. Puisqu'il faut savoir que, comme l'a dit Patrick, c'est une campagne qui s'est menée, qui se mène et qui continuera à se mener. Alors, comment ça s'est passé ? Alors, on vous parlera peut-être plus tard des fusillés des Bouches-du-Rhône. Mais enfin, il faut savoir quand même que dans les Bouches-du-Rhône, c'est quand même une des régions où il y a eu le plus de fusillés, pour l'exemple. Hein. Alors, par exemple, on en a recensé, moi personnellement, j'en ai recensé 19 qui l'ont vraiment été fusillés, pour l'exemple. Hein. Il y en a d'autres qui l'ont été pour des motifs un peu plus troubles. Mais il faut savoir que la libre pensée comme la RAC, quand elle annonce 639 fusillés, ce sont des fusillés pour l'exemple. Hein. Il ne faut pas confondre avec ce que beaucoup voudraient nous faire croire, qu'en définitive, là-dedans, il y avait des espions ou des crimes crapuleux. Non, pas du tout. La libre pensée, dans les chiffres qu'elle a sortis de 639 fusillés pour l'exemple, ce sont les chiffres officiels, donc les chiffres qui ont été sortis en définitive par le site Mémoire des Hommes. Alors, ce qui fait que mon camarade me dit 23, et c'est tout à fait exact, parce que c'est 19, plus les deux, pour crime, plus ou moins pour crime crapuleux, et puis l'autre qui a été pour espionnage. Et il y en a eu d'autres. Donc, mais moi, je parle des 19, c'est vraiment ces 19 en qui on a retrouvé vraiment les documents. Donc, c'est-à-dire que j'ai retrouvé, pour tout dire, j'ai retrouvé tous les jugements des tribunaux, que j'ai épluché point par point pour savoir exactement les motifs de ces condamnations. Mais quand je disais ce combat, pourquoi ce combat ? Parce que ce combat, il faut savoir qu'on l'a mené dans différents axes, je dirais. Dans un premier temps, nous avons décidé de démarcher les non responsables, qui étaient les députés. C'est-à-dire qu'on s'est adressé en premier lieu aux députés. On leur a demandé de faire quelque chose. Bon, là-dessus, pas de résultat. On a demandé après, bien sûr, on a demandé au président, puisque c'est le personnage le plus important de la République, le premier à l'avoir fait d'ailleurs, pas l'avoir fait, mais en avoir parlé plus exactement, c'est Sarkozy, hein, qui a reconnu que c'était pas des lâches, qu'il fallait faire quelque chose, mais qu'il a rien fait. Le deuxième à en avoir parlé en définitive, c'est François Hollande. Et là, bien entendu, comme l'a dit Michel, sur François Hollande, il a dit c'est une trahison. On peut considérer qu'effectivement, c'est une trahison. Puisque dans les combats, quand on nous a fait signer, après avoir fait signer les députés, nous avons fait signer les conseils régionaux, les conseils départementaux et après les sénateurs et ainsi de suite. Et il faut savoir que M. Hollande, lorsqu'il était président du département de la Corrèze, il avait signé, on l'avait interpellé pour lui demander qu'est-ce qu'il pensait de la réhabilitation des fusillés pour l'exemple. Et il avait signé qu'il était tout à fait d'accord avec la réhabilitation des fusillés pour l'exemple. Alors, quand il a été président de la République, bien entendu, nous, on s'est dit, Bonnard, on va gagner dans notre truc. Eh ben non, nous n'avons pas gagné. Qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur Hollande ? Il a monté une commission qui s'appelait la commission Prost, hein, avec certains historiens, enfin la plupart des historiens, hein, connus ou pas connus, ou honnêtes ou pas honnêtes, hein, on avait de tout. Ils ont interrogé également des associations, hein, comme la RAC a été interrogée, la Libre Pensée a été interrogée, d'autres associations ont été interrogées. Et suite à ce rapport Prost, M. Hollande a choisi de... Il y avait trois solutions qui se proposaient dans ce rapport Prost. Le premier, c'était de dire, ben, on fait rien. Bon, ça, c'était connu, ça fait des années qu'on fait ça. La deuxième, c'était une réhabilitation collective, des fusillés, par exemple, ce que demandaient en définitive la Libre Pensée et la RAC, parce que... Et il y avait l'autre, c'était de faire quelque chose, quelque part, pour rappeler que... Voilà. Alors, déjà, pour revenir sur le fait de la réhabilitation collective, il faut savoir que il y a deux façons de faire. Hein. Certaines associations, hein, ce qui était un peu une ambiguïté au niveau de certaines associations, même dans les propres associations, certains étaient pour une réhabilitation collective, d'autres pour une réhabilitation au cas par cas. Hein, il faut le savoir. Mais nous, la Libre Pensée, nous avons dit, c'est pas possible. Donc, cas par cas, les documents ont disparu. Il faut savoir que 20% des documents sur des conseils de guerre avaient brûlé, avaient disparu. Donc, c'était pas possible de faire du cas par cas. On peut pas faire du cas par cas 100 ans après. Donc, pour nous, c'était une réhabilitation collective et une réhabilitation donc, et qui ne se discutait pas. Parce que, de toute façon, on savait qu'ils avaient été envoyés au massacre et que c'était dans des conditions impitoyables, effroyables. Donc, on ne va pas discuter. Donc, on ne va pas discuter sur les chiffres pour dire non, c'est une réhabilitation collective. Alors, qu'est-ce qu'il a fait dans M. Hollande, tout compte fait? Ben, M. Hollande, il a dit, ben, on va mettre aux Invalides, une partie des Invalides qui va être réservée aux fusillés, pour l'exemple. Et on va ouvrir les archives. Alors ça, les archives, c'est très bien. C'est le site Mémoire des Hommes. Vous trouverez tous les renseignements, même pour ceux qui ne sont pas fusillés, pour l'exemple, qui ont des grands-parents ou qui ont été dans la guerre de 14, s'ils veulent avoir des renseignements, ils auront ces renseignements sur le site Mémoire des Hommes. Alors, sur le Mémoire des Hommes, bon, j'en discuterai pas, puisque ça m'a permis d'ouvrir tous les dossiers des conseils de guerre, hein, sur les fusillés des Bouches-du-Rhône. Mais là où ça blesse un peu, c'est la partie, je dirais, des Invalides. Moi, depuis très longtemps, je dis oui, on a fait ce truc aux Invalides, c'est bien beau, mais moi, je ne suis pas persuadé que les Invalides, étant un musée militaire géré par un général, qui ont toujours refusé de réhabiliter les fusillés, on ne pouvait pas dire qu'on avait une part quand même de fusillés qui serait importante. Donc j'y suis allé, tout à fait, il y a 2 ans, à peu près, j'y suis allé. Et qu'est-ce que j'ai constaté? Ben, j'ai constaté qu'effectivement, j'avais pas tort. La part des fusillés aux Invalides, si vous y allez, vous verrez, on fait croire que c'est Foch en définitive, et Joffre qui n'ont pas voulu faire des fusillés, qu'ils trouvent que c'était atroce que des mecs étaient fusillés rapidement. C'est une lettre d'ailleurs qui est à l'entrée de la salle consacrée aux fusillés, pour l'exemple. Je dirais pas une salle, hein. C'est même pas une salle, c'est un panneau. Hein. Donc ce truc-là, c'est une injustice, c'est une ignominie même, je dirais. Alors qu'est-ce qu'on a décidé là-dessus sur le combat? Parce qu'il faut bien parler quand même du combat de la Libre Pensée, on est là pour ça, et de la RAC. Suite à toutes les demandes que nous avons obtenues, les refus de réhabiliter ces fusillés, nous avons décidé, nous, citoyens, de réhabiliter ces fusillés, pour l'exemple. C'est pour ça que nous avons décidé de faire une souscription pour ériger un monument. Ce monument, on a récolté de l'argent et on a érigé ce monument sur la ligne de front à Chauny, dans la Meuse. Et nous avons donc fait ce qu'on appelle, nous, une réhabilitation citoyenne des fusillés, par exemple. Et nous l'avons inauguré donc le 6 avril de cette année. Et cette réhabilitation citoyenne est en fait le prochain combat que nous menons maintenant pour la Libre Pensée. C'est en définitive d'essayer de faire voter une loi par les députés. Certains groupes à l'Assemblée nationale l'ont accepté, de pouvoir déposer un projet, pour qu'en définitive, on puisse obtenir la réhabilitation définitive des fusillés, pour l'exemple. Et c'est un peu ce film-là qui va être projeté dans différents endroits. Hein. Michel a signalé que ce film serait projeté à Septaine, hein, donc je le rappelle, le 9 novembre à 10h30, à 9h30. Mais ce film sera également projeté, parce que c'est un combat de toute la libre pensée, de toute la RAC au niveau national. Donc ce film sera projeté également la veille à Vitrolles, au Cinéma Les Lumières, le 8 novembre à 18h30, avec la RAC également, la LDH. Et il y aura encore, ce film sera encore projeté également le 11 novembre à Port-Debout. Hein. Et vous verrez, et il y a une action pour la réhabilitation, pour la paix, le 14 novembre à Arles aussi. Hein. Il faut le savoir, toutes ces actions ont pour but, en définitive, de remobiliser plus ou moins la population et nos élus, de manière à ce que le prochain combat, ça va être bien entendu de démarcher les députés pour que le projet de loi qui sera déposé puisse être validé et puisse être voté. Voilà ce qui est la suite logique de ce combat des fusillés, pour l'exemple.
Est-ce que vous travaillez aussi sur le devoir de mémoire par rapport aux écoles, tout ça ?
Aux écoles, pour nous, la libre pensée, c'est très difficile. Mais pour la RAC, parce que pour nous, la libre pensée, nous avons toujours eu des difficultés à intervenir au niveau des enfants. Nous, la libre pensée, nous pensons qu'il faut que déjà, on n'intervient pas au niveau des enfants, on intervient au niveau d'un certain âge, déjà quand ils sont étudiants ou lycéens.
On ne fait pas la leçon aux enfants, nous.
Oui, d'accord. Voilà,
donc,
ça, ouais.
Par contre, il y en a un qui va vous en parler très bien, hein, c'est mon camarade qui est à ma droite, là, qui est Patrick, hein, qui, eux, interviennent dans les écoles sur ces problèmes-là.
Je crois que j'ai touché le point faible, là.
Oui, oui, non, mais... merci. Sur les fusillés, pour l'exemple, on a oublié de dire aussi, c'est vrai, 639, hein, beaucoup les Bouches-du-Rhône, j'interviendrai après par rapport à cette fameuse légende noire des soldats du Midi. Et aussi, je pourrais aussi tout à l'heure intervenir par rapport à la quatrième génération de feu, les OPEX, qui sont dans les pays étrangers. Mais on a oublié quand même de dire les exécutions sommaires. Les poilus de 14 qui n'ont pas été fusillés pour l'exemple, mais qui ont été tout simplement assassinés d'une balle dans la tête.
Oui, d'ailleurs, quand j'ai fait mon service militaire, il y avait un saint sous-off qui me l'a dit. Il m'a dit, les officiers, tu remarqueras, ils n'ont pas le fusil, eux. Ils ont revolver.
Revolver.
Parce que c'est pour les hommes qui ne veulent pas avancer.
C'est ça. Donc, exécution sommaire, il y en a eu... On ne peut pas le dire. On ne peut pas donner de chiffres sur ces exécutions sommaires. Mais sachez qu'il y a dû en avoir certainement autant, sinon plus, que de fusillés, pour l'exemple. Alors, la bonne question, merci de m'avoir passé la parole. Oui, la RAC, au niveau du devoir de mémoire, du travail de mémoire, et même nous on dit le besoin de mémoire. Alors nous avons à notre organisation nationale, et y compris départementale, à notre dernier congrès départemental où on a fêté le 100e anniversaire de notre association, nous avons élu un président délégué responsable à la mémoire. Et nous travaillons énormément. Alors, on parle de 14-18, justement, j'ai eu un mail hier d'une institutrice où j'étais intervenu sur la Première Guerre mondiale 14-18 qui demande à ce qu'on revienne, parce que ce qu'il faut savoir, et c'est très peu connu, c'est qu'il existe un concours national sur la Première Guerre mondiale. Ça, c'est pour les enfants qui sont en CM1, CM2. Et on fait un travail... là-dessus, ce concours national, qui est primé aussi bien sûr au niveau départemental, s'appelle les petits artistes de la mémoire. Et donc la semaine prochaine, je dois intervenir dans une école par rapport à ça. Et le thème cette année du concours, c'est les lettres des poilus à leurs femmes et à leurs familles. Donc très intéressant. Par rapport au devoir de mémoire, vous savez que la RAC, c'est la défense des combattants de toutes les guerres. La première... La deuxième, le travail dans la résistance, mais aussi contre toutes les guerres coloniales, l'Indochine, l'Algérie. On travaille aussi sur les OPEX. Et avec mon président d'honneur, Michel Cassiotti, qui a 94 ans, il est aujourd'hui à l'hôpital, nous rencontrons dans tout le département des Bouches-du-Rhône entre 6 000 et 8 000 élèves par an. Et nous les inscrivons aussi, quand c'est sur la Deuxième Guerre mondiale, au concours hein, sur la Deuxième Guerre mondiale et sur la résistance, mais c'est sur Une année, c'est sur la résistance et l'autre année, c'est sur la déportation. Donc, nous rencontrons énormément d'élèves de collèges dans tout le département. Et en général, ils s'inscrivent au concours et bien souvent, ils sont primés et ils ont des prix au niveau départemental. Voilà. Alors, je voudrais... Est-ce que vous permettez que j'intervienne par rapport à la légende des soldats du Midi maintenant, par rapport...
Moi, je te dirais que je le souhaite parce que j'ai fait quand même baptiser un rond-point du 15e Corps à Vitrolles l'année dernière. Donc...
Oui. Et cette année à Vitrolles, le 11 novembre, il y aura de dévoiler une plaque Henri Barbusse à notre président fondateur. Oui, alors tu parlais tout à l'heure des soldats du Midi. La légende noire des soldats du Midi. Pourquoi ? La calomnie sur les soldats du Midi, qui les traitaient de lâches, s'explique partiellement par la retraite, tu l'as signalé tout à l'heure, d'août 1914, quand les troupes méridionales ont été accusées d'avoir cédé en Lorraine. Ce 15e corps d'armée, composé des contingents d'Antibes, de Toulon, de Marseille, de Nice, d'Aix, de Corse, ceux qui, paraît-il, ont lâché pied devant l'ennemi. Mais ils se sont vus... en ce mois d'août 1914, confronté à un terrible tir et un barrage de l'artillerie allemande qui, elle, avait bien préparé le terrain, naturellement. En quelques heures, les troupes françaises engagées ont été décimées. On a compté près de 80% de pertes selon les compagnies. Ce fut alors, bien sûr, effectivement, la retraite catastrophique et la fin du plan de campagne de Joffre. Les Allemands dans l'histoire des fers, alors dans les plaines du Nord et de la Picardie. Alors, bien sûr, dans les premiers mois de la guerre, c'est là que tout se joue. L'état-major et le gouvernement cherchent naturellement des boucs émissaires, tu l'as dit tout à l'heure. Eh bien, les boucs émissaires, ce seront tout simplement les soldats du Midi. En pleine union sacrée, l'antagonisme ressurgit entre la France du Nord et celle du Sud, nourri de préjugés racistes qui étaient déjà issus du 19e siècle. L'affaire du 15e corps d'armée empoisonnera les esprits pendant toute la durée de ce conflit. Démission, règlement de compte politique, humiliation, persécution, voire, ce que je viens de dire, des exécutions arbitraires contre des combattants accusés d'être par nature de mauvais patriotes. Mais il faut, quant à cela, vous savez, revenir en arrière pour comprendre la force d'un préjugé dans l'imaginaire national, celle d'un Midi fictif, inventé de paresse, de galéjade, empreint aussi d'antisémitisme et de xénophobie. Alors bien sûr, tu l'as dit tout à l'heure, ces soldats ont été réhabilités après la guerre. Il y a eu un procès, mais... on ne pouvait pas accuser Joffre, qui était idolâtré par la France, lui le vainqueur de la Marne. Et je ne peux, quant à cette légende, je pense qu'ici tout le monde l'a lu, de vous recommander de lire le livre « Désunion nationale » écrit par Jean-Yves Le Naour, qui est à Marseille. Jean-Yves Le Naour, historien et spécialiste de la Première Guerre mondiale. Mais pour terminer de cette légende, de cette désunion, de ces républicains qui furent diffamés, pour l'exemple. Ne l'ont-ils pas été aussi parce que les Français du Nord redoutaient ce Midi qui ne leur ressemblait pas ? Ou étaient-ils jaloux de ce qu'ils n'avaient pas ? C'est encore et toujours l'interrogation. Mais sachez quand même que ce 15e corps d'armée, tu l'as dit, tu as... inauguré une plaque à Vitrolles l'année dernière, ce 15e corps dont des rues de France portent aujourd'hui le nom, il n'en restera qu'à jamais des milliers de morts pour la patrie. C'est comme ça qu'il faut le voir.
Oui. D'ailleurs, ce que tu viens de dire illustre tout à fait une particularité de la libre-pensée, qui est de dire, on ne part pas des a priori, on ne part pas des idées reçues, etc. On part des faits et on les étudie. Voilà, c'est notre méthode de travail. Et je pense que c'est vrai que c'est comme ça que on permet d'avancer pour la défense de la liberté absolue de conscience. Hein, ça, c'est qui est l'objectif de la libre pensée. Et c'est pour ça qu'on se retrouve dans ce combat. C'est pour ça qu'on va se voir à Septem, hein, samedi à 9h30.
Oui.
Hein, salle Isaac Manouchian, c'est au 211 avenue du 8 mai 45. C'est juste à côté de la gare. Hein.
Voilà. Voilà. Et la médiathèque.
Et de la médiathèque de Septem. Voilà, c'est. Et effectivement. On pourra débattre après la projection du film qui concerne bon, ce monument qui a été érigé. Et puis, on peut y voir aussi des témoignages de descendants, parce que le problème de ces fusillés, pour l'exemple, c'est que leur famille, eh ben, quelque part, elles ont toujours quelque chose à faire réparer.
Merci. Donc, en définitive, dans tout ce qui a été dit, le courrier n'arrivait pratiquement pas, le ravitaillement était quasiment inexistant, et tous nos braves soldats se sont retrouvés donc démunis de tout, avec tout ce que ça a pu amener de terrible pour eux. Voilà, c'est ça. Je voulais témoigner pour eux, c'est fait. Voilà, il est 3h moins 10. Je vais dire à Joachim de nous mettre le CD que la personne qui était à mon côté, à ma gauche, m'a donné.
Si tu veux, je peux.
Oui, oui, allez-y.
Oui, juste parce que mon camarade a bien dit pour Bagne, pour Septaine, je veux dire. Mais je rappelle qu'il y a des actions qui sont un peu partout. À Vitrolles, par exemple, tout à l'heure, tu viens de parler des témoignages de fusillés. Eh bien, à Vitrolles, nous aurons un descendant de fusillés, pour l'exemple également, qui apporte son témoignage direct. C'est le descendant de Lançon, dont les restes ont été rapatriés, dont FR3 a fait un reportage en 2016, le 22 octobre, il était mort le 22 octobre 2016. Voilà.
Bien, je vous remercie pour ces précisions. Joachim, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'envoyer un peu de musique? Merci, Joachim.
C'est au sixième une mansarde, quelque part dans le Grand Paris. De femmes en pleurs se regardent, des cheveux blonds, des cheveux gris. Le journal est là sur une table, et la plus jeune s'approchant, prenant une voix pitoyable, à l'autre dit en sanglotant: non, pas ça, pas la guerre, nous avons assez de misère, assez de deuils à consoler et de ruines à réparer. Elle a déjà pris mon grand frère, maman chérie, il dort là-bas, parmi sous la terre, la guerre encore. Ah non, pas ça. Tiens, cette lettre est la dernière qu'on a reçue avant perdant. Il dit: serrez-toi, ma mère. Adieu, l'attaque est pour demain. Pauvre frérot, quelle souffrance, et pour nous quel déchirement. Se pourrait-il qu'on recommence ces jours d'horreur, ces jours de sang? Non, pas ça, pas la guerre, nous avons assez de misère, assez de deuils à consoler et de ruines à réparer. Elle a déjà pris mon grand frère, maman chérie, il dort là-bas, parmi tant d'autres sous la terre. La guerre encore.
slide pour le son.
Voilà. Très très belle musique, très très belle chanson. Il est maintenant 3h moins 5, je pense que nous pouvons rentrer à l'antenne si tout le monde est d'accord ici.
Oui,
allez-y, oui, vas-y, pas de soucis.
J'en ai pour deux minutes.
Vas-y, pas de problème.
Voilà, on a au niveau de la RAC, on a abordé tout à l'heure cette quatrième génération de feu, les OPEX. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, notre pays, la France, est engagé dans plus de 30 pays à travers le monde, avec ces jeunes militaires envoyés en OPEX, en opération extérieure, hein, cette quatrième génération de feu. Alors, on entend parler souvent de guerre ciblée, de guerre chirurgicale, de guerre propre, voire de guerre humanitaire. Eh bien, nous, à la RAC, pour tout vous dire, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est une guerre chirurgicale. Tout simplement parce qu'une guerre chirurgicale, ça n'existe pas. Dans une de nos revendications à la RAC, nous sommes aussi pour le retour d'une armée de conscription. Ou bien sûr, pas comme elles étaient à l'époque. Alors, mais par rapport à ces interventions dans les pays, vous savez, quand on dit on va là-bas pour défendre les femmes voilées, je crois qu'on se met le doigt dans l'œil jusqu'au coude, là. Hein. On est là-bas, surtout avec les forces internationales, contre naturellement les bandes barbares, criminelles, inhumaines. D'ailleurs, honnêtement, ce serait un crime de ne pas y intervenir. Mais, vous savez, la colère contre ces actes barbares, la colère n'est pas toujours non plus signe de clairvoyance, y compris dans les actions et dans les mesures à mettre en place. Alors bien sûr, oui, quand nos libertés essentielles sont menacées, nous devons de nous rassembler comme l'ont été toujours nos anciens dans ces combats qui ont toujours été difficiles. Et je disais que quand on était là-bas, ce n'était pas pour défendre les femmes voilées, mais surtout pour encore s'accaparer des ressources de ces pays-là. Vous savez, l'exemple typique, le Mali. Bon, il y a bien sûr le gaz, le pétrole, mais on est aujourd'hui au Mali. C'est pourquoi, qu'est-ce qu'il y a au Mali, dans les réserves naturelles? Ben, il y a le produit, je ne me souviens plus le nom, avec lequel on fait de l'armement, y compris nucléaire. Hein, c'est l'uranium enrichi. Voilà. Hein, ouais. On n'est pas là pour ce qu'ils disent, mais pour bien puiser dans ces ressources naturelles. Voilà, c'est aussi une des grandes batailles que notre association, la RAC, mène, avec, bien sûr, la Libre Pensée, la Ligue des Droits de l'Homme. Et on parlait tout à l'heure du 11 novembre qui va arriver. Nous avons là aussi, vous savez, quand on se rend devant les monuments aux morts, c'est bien sûr pour un hommage mérité à ceux qui sont morts pour la France. Mais c'est aussi pour faire passer le message de plus jamais ça, plus la guerre et notre combat éternel pour la paix.
Alors oui, Patrick, c'est bien de nous laisser un peu... de me rafraîchir la mémoire, parce qu'on oublie l'essentiel. C'est que la libre pensée, si l'on mène un combat pour les fusillés, pour l'habilitation des fusillés, par exemple, c'est pas pour revenir sur l'arrière, non. C'est en définitive pour montrer que les guerres sont des atrocités et que l'on rappelle qu'on est contre les guerres. Et c'est pour dire que toutes les guerres sont des absurdités. Et bien entendu, nous, on combat contre ces opérations, ces OPEX qui sont faites. Et nous, on ne le fait pas, un peu la différence avec mon camarade à côté, c'est que nous ne le faisons pas devant des monuments aux morts officiels, mais nous le faisons devant des monuments pacifistes, comme ça se fait dans certains endroits, à Gensoul, le monument le plus connu qu'il puisse y avoir comme monument pacifiste, puisque là, il y a un garçon, qui a un gamin qui tend le poing en disant « guerre à la guerre ». Voilà. Et c'est ça que l'on fait. Il faut savoir que c'est ça qu'on en appelle. Voilà.
Et moi, je peux inviter à aller plus près de Marseille, à Château Arnoux. Allez voir le monument aux morts de Château Arnoux. Et vous allez voir qu'il y a quand même, après la guerre, tout un élan pacifiste justifié, parce que cette guerre, il faut dire, de 14-18, elle a été faite pour quoi? Pour se disputer les colonies. Vous avez eu des combats au Cameroun, par exemple. Et c'est là, d'ailleurs, que le maximum de troupes coloniales ont été engagées. Les troupes africaines ont été engagées au Cameroun. Voilà, c'était...
Bon, oui, le... on parle bien de la même chose, le repartage du monde, les richesses, c'est ça.
Bien, écoutez, merci à tous les trois, très bonne émission. Il est temps de rendre l'antenne et laisser la place à notre ami Ernesto qui va prendre la relève. Et je vous donne rendez-vous mercredi 14h-15h pour Article 25, émission revendicative, sociale et politique. Voilà, je vais demander à Joachim de lancer le générique et à très bientôt. Merci à tous les trois.